de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Maintenant, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Jokowi et Prabowo discutent des problèmes d'État à Yogyakarta. Jokowi a dit prioriser la sécurité des résidents touchés par les inondations. La maison de détention de l'immigration de Pekanbaru a expulsé 60 étrangers en 2019. Macron promet de continuer à encourager une réforme du système de retraite. Le Pentagone envoie des troupes supplémentaires au Moyen-Orient. La Corée du Nord montrera de nouvelles zones stratégiques. La Malaisie conserve les caractères de l'islam dans son Kampung Baru avec l'âge de centaines d'années. Voici le journal complet. Le président Jokowi Dodo ou Jokowi a rencontré le ministre de la Défense Prabowo Subianto à Gedung Agung Palais Présidentiel de Yogyakarta mercredi. Selon Jokowi, une réunion avec Prabowo au début de cette année devait discuter des problèmes du pays. Pendant ce temps, Prabowo a déclaré que la réunion devait synchroniser les grands plans du président avec ses ministères. Selon lui, le président a une bonne stratégie et des bonnes perspectives pour réaliser ce grand plan. Prabowo optimise la réalisation des grands projets du président. Il a également promis de travailler dur pour le réaliser. Le président Joko Widodo a chargé le gouvernement de donner la priorité à la gestion de la sécurité des résidents touchés par les inondations à Jakarta et ses environs. Il a demandé à toutes les parties, telles que le gouvernement provincial, l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, ainsi que l'Agence de recherche et de sauvetage, ou SAR, travaillent ensemble pour faire face aux inondations et pour sauver les résidents victimes d'inondations mercredi. Cela a été dit par le président Jokowi, qui a été accompagné mercredi du ministre d'État Pratikno au palais présidentiel de Yogyakarta. En outre, le président Jokowi a également ordonné au gouvernement de normaliser les installations publiques afin qu'elles puissent reprendre leurs activités normales. Parce que l'impact des inondations ont paralysé les activités des citoyens et aussi des objets vitaux et des services publics tels que l'aviation et les services de péage. Le président a également souligné que le gouvernement central et provincial collabore pour anticiper et faire face aux inondations, dont l'une est de terminer immédiatement la construction des réservoirs de Ciawi et Cimahi. La maison de détention de l'immigration de Pekanbaru a expulsé 60 ressortissants étrangers via la ville de Pekanbaru en province de Riau en 2019. C'est ce qu'a affirmé le chef de la maison de détention de l'immigration de Pekanbaru, Junior Sigalingging, mercredi à Pekanbaru, Riau. La plupart des expulsions ont été effectuées contre des étrangers de Bangladesh en août 2019. Ils ont été pris en flagrant délit lorsqu'ils abusaient d'un visa de visite en Indonésie pour entrer illégalement en Malaisie via les eaux de Riau. En outre, La maison de détention de l'immigration de Pekanbaru Riau a également déplacé 147 personnes, outre que le rapatriement librement consenti dans leur pays d'origine de 10 personnes tout au long de 2019. Le chef de la maison de détention de l'immigration de Pekanbaru, Junior Sigalingging, a déclaré que jusqu'à la fin de 2019, le nombre d'immigrants ayant le statut de réfugié étranger et de demandeur d'asile dans la région de Pekanbaru était de 999 personnes. Le président français Emmanuel Macron a promis de pousser à l'amélioration du système de retraite. Macron a maintenu son attitude malgré les protestations des syndicats français qui ont organisé des manifestations pendant plusieurs semaines. Dans un discours du Nouvel An diffusé à la télévision nationale mercredi, Macron a déclaré qu'il espérait que le gouvernement qu'il dirigeait s'emploierait à trouver un compromis rapide avec les organisations syndicales, mais sans quitter les principes fixés par le ministère. Depuis le 5 décembre, des membres du syndicat français organisent dans tout le pays des manifestations qui perturbent les transports publics. Macron veut remplacer le système de retraite français qui couvre 42 régimes sectoriels spécifiques avec un système de base pour tout. Selon le gouvernement, ce sera plus équitable et transparent. Le gouvernement Macron a rejeté la demande des syndicats qui souhaitaient annuler tous les plans de réforme du système de retraite. Afin d'apaiser les tensions, le gouvernement français a proposé plusieurs concessions sectorielles. Jusqu'à présent, Macron a refusé d'annuler les plans qui encouragent les travailleurs à pouvoir prendre leur retraite à l'âge de 64 ans. Le syndicat demande que l'âge de la retraite en France reste à 62 ans. Les manifestations contre les frappes aériennes américaines en Irak se sont terminées dans le chaos. Des manifestants ont lancé des pierres et incendié le poste de sécurité de l'ambassade américaine à Bagdad en Irak. Les émeutes n'ont pas seulement déclenché des affrontements entre les manifestants et les gardiens, mais ont également encouragé les États-Unis à augmenter leurs troupes au Moyen-Orient. Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, a déclaré mercredi que le Pentagone ajouterait des marines pour protéger les employés de l'ambassade. Environ 750 soldats de la division aérienne 82 seront envoyés au Moyen-Orient. D'autres troupes supplémentaires seront envoyées dans les prochains jours. Le secrétaire à la Défense a ajouté que cette mission était une réponse de précaution et appropriée au niveau croissant de menaces contre le personnel et les installations des États-Unis. Des manifestations dirigées par des milices soutenues par l'Iran s'opposent à la politique étrangère américaine de Donald Trump. Le département américain de la Défense a déclaré que les employés diplomatiques à l'intérieur de l'ambassade étaient en sécurité. Cette attaque inhabituelle contre une mission diplomatique américaine montre le conflit aigu entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays ont une forte influence en Irak. Actuellement, les relations entre les États-Unis et l'Iran sont à leur point le plus bas au cours de ces dernières années. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré mercredi que son pays continuerait de développer son programme nucléaire et d'introduire une nouvelle arme stratégique. Dans un proche avenir, on rapportait le média d'État KCNA. La déclaration de Kim a été publiée après que les États-Unis n'ont pas respecté le délai de la fin d'année pour reprendre les négociations sur le désarmement nucléaire. Kim a tenu samedi une réunion du comité d'élaboration de la politique du Parti travailliste d'assouplir son attitude en rouvrant le rang de négociation. Les États-Unis considèrent que la limite de temps comme une condition qui n'est pas naturelle. Kim avait averti précédemment qu'il pourrait prendre une nouvelle voie si Washington ne répondait pas à ses attentes. Le ministre du Territoire fédéral de la Malaisie, Khalid Abdul Samad, a garanti l'identité de Kampung Baru avec les caractéristiques du Mali et de l'Islam qui existaient depuis 100 ans. Selon un reportage de Bernama mercredi, le ministère prévoit de construire un parc du patrimoine malais pour présenter des spectacles de théâtre malais dans le développement de Kampung Baru. Il expliquait que certains bâtiments, tels que la mosquée Kampung Baru et le club Sultan Sulaiman, seront préservés en nommant les routes préservées. En outre, Le ministère développera la communauté malaise en développant des résidences malaises modernes, complètes, confortables et bien planifiées. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre « L'espoir en 2020 ». Jusqu'au deuxième jour de 2020, certains espoirs avaient été exprimés en 2020. La température politique nationale devrait augmenter avec les élections régionales simultanées en septembre 2020 et la projection statique d'économie. Cependant, l'optimisme du gouvernement vis-à-vis de la croissance économique et des problèmes sociaux a continué d'être planté avec le plan de développement des infrastructures qui devrait être achevé en 2020. Dans le domaine économique, la projection de 2020 par l'Organisation de coopération et de développement économique estime que la croissance économique de l'Indonésie en 2020 atteindra 5% de moins que la projection du FMI et de la Banque mondiale qui prévoit la croissance économique de l'Indonésie de 5,1% et celle de la Banque asiatique de développement de 5,2%. Cependant, l'estimation des étrangers contre l'Indonésie ne semble pas trop loin de l'estimation du gouvernement d'environ 5,3% à 5,6%, comme l'a déclaré la ministre des Finances Sri Mulyani lors d'une audition avec le Parlement. La ministre Sri Mulyani a déclaré que tous les cadres préparés pour 2020 avaient pris en compte les conditions mondiales actuelles et à l'avenir. L'encouragement des recettes potentielles en devises provenant des sources non fossiles a conduit le gouvernement à encourager les parties prenantes de chaque région à maximiser leur potentiel existant. De nombreux chefs de région ont opéré des transformations en générant des devises à travers les voies de croissance du tourisme. Parce que dans le secteur du tourisme, le chiffre d'affaires économique est assez élevé, commençant à créer de nouveaux emplois, l'économie des petites et moyennes entreprises commence à être active jusqu'aux touristes étrangers et nationaux en visite pour dépenser leur argent. Espérons que 2020 sera meilleur que l'année précédente avec un esprit d'unité et de compréhension de la tolérance. Enfin, cela rend la maturité du peuple indonésien plus avancée. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir. Serviteur, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement « Le Japon a occupé Mani le 2 janvier 1942 ». Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a lancé une offensive contre les Philippines, la colonie américaine, le 8 décembre 1941, 10 heures seulement après leur attaque contre Pearl Harbor. Le bombardement aérien a été suivi d'un atterrissage de troupes terrestres au nord et au sud de Mani. Les troupes des Philippines et des États-Unis, sous le commandement du général Douglas MacArthur, ont tenté de survivre. Mani a été occupée par les troupes japonaises le 2 janvier 1942. Le 6 mai 1942, les Philippines ont été occupées par le Japon. L'autre information est sur l'Union soviétique a lancé l'avion sans pilote Luna 1 sur la Lune. Le 2 janvier 1959. Après avoir lancé avec succès le premier vaisseau spatial de Sputnik, l'agence spatiale soviétique a lancé le 2 janvier 1959 l'avion sans pilote Luna 1 visant à faire des recherches sur la Lune. L'avion transporte des émetteurs radio, le système de télémétrie et le système de détection. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec l'événement la création du commandement de Mandala pour libérer l'Iran occidental le 2 janvier 1962. Le 19 décembre 1962, le président Sukarno a sorti un mandat afin de lutter pour la libération de l'Iran occidental connu sous le nom des trois commandements du peuple Trikora. La première réalisation de Tricolore est la création du commandement des opérations militaires nommé par la commande de Mandala. La commande de Mandala est formée par le président Sukarno le 2 janvier 1962 par le décret présidentiel numéro 1-1962. La commande de Mandala a été formée pour libérer les rayons occidentaux qui étaient encore maîtrisés à cette époque par le Néerlandais. Grâce à la commande de Mandala, Ellsworth Bunker, le représentant des États-Unis, a proposé les problèmes des Pays-Bas, Indonésie, auprès de l'Organisation des Nations Unies, qui peut finalement être résolu pacifiquement et les rayons occidentaux a revenu dans les mains de l'Indonésie. Serviteur, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Lagu cinta biasa, hanya denting nada yang memanjakan senyumanmu. Ingin ku cerita semua rahasia yang hanya Tuhan dan kamu yang tahu. Kau buatku lemah tak berdaya. Ha, 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 ha. Oh. Kau membebaskanku dan ha, 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 ha. Bersamamu aku tahu kau suka padaku. Kau memalu aku tak senyaman kau bersama aku. Oh, oh. Aku pun inginkan kamu. Semua ini memang tidak biasa. Yeah, yeah, yeah. Apa yang ku rasa padamu memang istimewa. Selidiki aku apa adanya. Ayo kita bongkar mujizat dunia. Kau membuat hati terkila-kila. Hatiku tergila-gila. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku. Terasa nyaman kau bersama aku. Oh, oh. Aku pun inginkan kamu. Kau buatku tertawa dan bersamamu. Kau membebaskanku dan bersamamu. Aku tahu kau suka padaku. Karena erat kau memeluk aku. Kau suka padaku. Oh, oh. Erat kau memeluk aku. Oh, oh, oh. Rasa nyaman kau memeluk aku.
vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Et la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Chers British auditeurs, voici mon Indonésie aujourd'hui. S'intitule 8 pêcheries de thon indonésiennes incluses dans le processus de certification internationale. L'Association indonésienne des pêcheries de Paul Eline and Handline, AP2HI, a lancé un processus de certification par la Marine Stewardship Ship Council, MSC, pour 8 entreprises de pêche au thon qui se concentrent sur la capture une par une. Cette certification est une référence pour le secteur mondial de la pêche au thon dans la transaction commerciale et devient un signe que les produits de thon répondent au principe de durabilité. L'activité a été réalisée par l'Association indonésienne de pêche de Paul, de Lin and Handling en coopération avec International Paul et Lin Foundation, IPNF et Ministère des Affaires Maritimes et de la Pêche. Le président de Paul and Lin and Handling, Jan Tijuari, a déclaré dans une déclaration officielle envoyée à Mongabay le lundi 30 décembre que l'inclusion de 8 pêcheries de thon dans le processus de certification MSC ou Marine Stewards Council était la preuve que les efforts de la collaboration des parties prenantes à Annecy avaient eu des résultats positifs. Cette réalisation est également devenue une étape importante pour le secteur de pêche au thon indonésien. Ces 8 pêcheries de thon sont réparties dans tout l'archipel indonésien, tels que le nord de Sulawesi, le nord de Moluques, le nord de Banda jusqu'à Flores, dans le sud de l'Indonésie. Pour mener à bien le processus de certification de Marine Stewardship Council, MSC, pour les 8 pêcheries thonnières un par un, il y a 9 sociétés membres de ASP2HI y ont participé. En outre, il existe également 471 navires de pêche qui sont plus de 70% ont une taille moins de 10 tonnes brutes et participent activement au premier stade de la capture sélective de thon. Janti a révélé que le processus de certification de Marine Stewardship Council, MSC, est devenu un programme d'amélioration pour les pêcheries thonnières à l'échelle nationale qui comprenait la collecte et le suivi des données. Le processus est mené par des observateurs locaux du gouvernement qui surveillent et recueillent des informations importantes à la voie en mer et dans certaines ports. Chers auditrices et auditeurs, c'était mon Indonésie aujourd'hui.
Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Hati.
kamu harus bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kamu kamu harus bahagia. Kita harus bahagia.
Vous êtes toujours avec nous sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web de www.voyeuse.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'île Penyengat. Chers auditeurs, sur cette île, il existe différents types de patrimoine historique. Entre autres, la grande mosquée du Sultan Riau, construite en utilisant le blanc d'œuf, le tombeau des rois, le tombeau des héros nationaux, Raja Ali Haji, le palais et la forteresse sur la colline de Kursi. Depuis le 19 octobre 1995, l'île Penyengat et le complexe du palais ont été proposés à l'UNESCO pour devenir un site de patrimoine mondial. Selon l'histoire, cette île minuscule située à l'estuaire de la rivière Riau est bien connue depuis des siècles car elle était un lieu escale pour prendre de l'eau douce qui est fournie en abondance sur l'île. Mais selon le folklore, ce nom vient d'un nom d'insecte qui a des piqûres. La légende raconte qu'il y a eu des marins qui ont violé l'interdiction en prenant de l'eau. Ils s'est donc attaqué à des centaines d'insectes venimeux. Ainsi, ces insectes ont été appelés Penyengat et cette île a été mentionnée avec le nom l'île Penyengat. Pendant ce temps, le peuple néerlandais a appelé l'île avec le nom de l'île Mars. L'île de Penyengat est une île historique qui occupe une place importante dans l'Empire Malais qui comprenait auparavant le territoire des sultanats de Johor, de Pahang, Siak et de Lingga, en particulier au sud de Semenanjung Melayu. Ce rôle important a été joué pendant 120 ans, de la création du royaume de Riau en 1722 à la reprise du royaume par les Hollandais en 1911. Il y a des endroits historiques à visiter sur l'île de Penyengat, y compris la grande mosquée du Sultan Riau. La mosquée a été construite par le Sultan Mahmud en 1803. Ainsi, dans le gouvernement Yang Dipertuan Muda VII, Raja Abdurrahman, la mosquée a été rénovée en 1832. Le bâtiment principal de la mosquée mesure 18 x 20 mètres et est soutenu par 4 piliers. Aux quatre coins du bâtiment, il y a des tours où Bilal fait héros à la Zan. À la mosquée du Sultan Riau, il y a 13 dômes qui ont la forme d'un oignon. Le nombre total de tours et de dômes à la mosquée est 17 pièces qui symbolisent le nombre de raka'at de 5 prières obligatoires par jour et par nuit. À gauche et à droite de la mosquée, il y a un bâtiment supplémentaire appelé Rumah Soto ou salle de réunion. Selon l'histoire, la mosquée a été construite en utilisant un mélange de blanc d'œuf, de chaux, de sable et d'argile. Avoir beaucoup d'histoire ne signifie pas de ne pas suivre l'ère du développement. La jeune génération de l'île de Penyengat a construit un lieu propice aux selfies. Son emplacement est sur la colline de Mariam où vous pourrez admirer de beaux paysages entourant l'île. Chaque dimanche, cet endroit est peuplé de marchands qui vendent leurs objets d'artisanat. Pasar Warisan est le nom de cet endroit. Chers auditeurs, c'était notre magazine culturel pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terlintas tuk tinggalkan kamu jauh dariku kasihku karena aku milikmu kamu milikku separuh nyawaku hidup bersamamu berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti Sehidup semati Mentari pun tahu Ku cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jaga Kita teman bahagia Ujung kepala Aku ingin kamu Kamu yang ku mau Belahan jiwaku Kamu masa depanku Berdua kita lewati Meski hujan badai takkan berhenti Sehidup semati Mentari pun tahu Cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jaga
La rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie à Jakarta, voici l'Indonésie en couleur, intitulé « En raison du développement de stockage de poissons », IPB a remporté le défi de l'innovation et, chers amis, voici l'Indonésie en couleur. Les étudiants du département de physique de la faculté de mathématiques et sciences naturelles, l'Institut agricole de Bogor ou IPB, et les étudiants de faculté des pêches et des sciences de la mer de IPB ont remporté la première place du concours de l'innovation challenge. Ce concours vise à trouver des innovations pour surmonter les pertes de poissons frais après la récolte en Indonésie, parce que les problèmes de poissons après la récolte ont un impact sur la chaîne de l'approvisionnement alimentaire. C'est l'un des grands problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement dans le monde, y compris l'Indonésie. Pour surmonter le problème après récolte de poissons frais en Indonésie, le ministère de la Santé de la République d'Indonésie, soutenu par le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, a organisé un programme de concurrence au niveau national intitulé Innovation Challenge. Le concours recherche 10 finalistes qui proposent des idées ou des innovations technologiques pouvant être adoptés par les acteurs locaux de la chaîne d'approvisionnement, dont le but est de réduire les pertes après récolte de poissons marins frais tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Parmi les points critiques comme à tout au long de la chaîne d'approvisionnement, entre autres les sites de débarquement de poissons, le transport et la distribution, le détaillant sur le marché, y compris les vendeurs en bordure de route, les petits systèmes de stockage et les matériaux de remplacement de la glace. Sri Ambar Bulan et ses collègues ont créé une méthode de stockage de poissons à l'aide de matériaux appelés PCMS ou matériaux à changement de phase. Ce matériau nécessite une grande quantité de chaleur pour changer la phase. Ainsi, lorsqu'il est placé dans un récipient de stockage, le poisson aborde beaucoup de chaleur et fonctionne comme un climatiseur ou un récipient de stockage de poissons, et à l'avenir, on développera des inventions qui ont reçu le prix. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kosong jadi yang paling bahagia dapati cinta itu perlahan duka pun pergi jauh tenggelam tinggalkan gundah bertahun ku coba sendiri berteman caci maki takkan ku lepas lagi kehadiranmu oh anugerah. Sepanjang usia kita terus bersama mengarungi hidup dengan cinta sudut kehendaknya. Sepanjang usia ku tak mau terpisah memberikan hatiku
bayangkan Voice of Indonesia.
Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Manis kasih tersayang, kapan
Voice of Indonesia. Indonesia.
maafkan salah langkahku, tak mungkin ku ulang lagi. Oh, ku sadari bukan arti cintamu. Aku masih cinta sernakan lagumu. Aku masih sayang dengarkan cintaku. Ku tak sanggup kehilangan lagi senyum manismu. Jangan hindari diriku, beri kesempatan sekali lagi. Lihat saja, lihat kasih, ku buktikan hasrat kasih. Ku sadari kan arti cintamu.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.